debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes esclaves, méprisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave, debout, debout, debout.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif féministe Debout. Et aujourd'hui, nous sommes cinq au micro. Alors, moi, c'est Maya,
Patricia,
Alison,
Angélique
et William.
Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de féminisme et d'antifascisme. Et donc, merci Will d'être avec nous donc, pour représenter le BAF, le bloc antifasciste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le BAF ?
D'abord, merci pour l'invitation. Donc le BAF, c'est un collectif, donc, comme son nom l'indique, nancéen, qui est né en 2013, en juin 2013, après la mort du militant antifasciste Clément Méric. Donc à cette époque-là, il y a eu donc plusieurs collectifs de ce type-là qui sont créés un petit peu partout en France. Et donc à Nancy, cette idée aussi de créer un collectif pour répondre aux problèmes et à l'extrême droite qui commence à grimper depuis de nombreuses années et avec une volonté de réponse de notre part. Donc l'idée, c'était surtout de créer un collectif qui ne soit pas un syndicat, un parti ou un groupe X ou Y, mais plutôt d'intégrer les individus plutôt que de vouloir à tout prix montrer un drapeau ou une bannière. Donc ça a été de rassembler les gens autour d'une conviction commune, celle qui est de lutter contre l'extrême droite, qui est aujourd'hui vraiment un problème dans notre société. Pourquoi lutter contre le fascisme ? Juste pour dire deux mots là-dessus, l'idée c'est que pour nous, le concept de fascisme, c'est pas quelque chose qui est juste dans les livres d'histoire, c'est pas quelque chose qui est mort avec la Seconde Guerre mondiale. C'est une pensée qui se nourrit et dont se nourrit l'extrême droite, plutôt, dont se nourrit l'extrême droite. Et les références idéologiques de l'extrême droite actuellement sont directement puisé dans le fascisme. Donc c'est pour ça que nous considérons qu'il est vraiment important d'utiliser et de garder ce terme-là, même si tout le monde n'a pas toujours pleinement conscience de ce qu'il recouvre. Mais pour autant, il y a certaines tendances qui se retrouvent dans ce qu'est le fascisme, et c'est à savoir un idéal qui ne prend pas en compte les intérêts des opprimés, des dominés. Donc que ce soit ce qui nous vient directement à l'esprit quand on parle d'antifascisme, c'est la lutte contre le racisme souvent. Mais pour autant, c'est pas du tout que ça. L'idéal fasciste, il se retrouve justement dans une société où tout serait contrôlé, où les minorités religieuses, ethniques n'auraient pas leur place, mais également, et surtout ce qui est sujet aujourd'hui, c'est les femmes qui seraient considérées comme minoritaires par rapport aux hommes dans la société. Et on considère, nous, au bloc antifasciste, qu'il faut lutter contre toutes ces discriminations-là, puisqu'elles nourrissent dans le même élan le fascisme.
Oui, on avait travaillé ensemble en janvier, donc avec le BAF et avec d'autres collectifs, sur un tract qui s'appelle « Tu vois le genre ?» et qui était relatif aux rumeurs qui incitaient les parents à ne pas emmener leurs enfants à l'école, puisqu'on allait parler de la soi-disant théorie du genre et de l'égalité entre les filles et les garçons. Donc on avait déjà travaillé là-dessus. Aussi, si on fait cette émission aujourd'hui, c'est parce que en novembre, le 15 novembre, au Centre culturel autogéré de Nancy, donc le BAF avait fait venir la Horde, dont on va reparler plus tard, donc sur la thématique antifascisme et féminisme. Donc aussi la lutte contre l'homophobie, contre les national-catholiques, la lesbophobie, etc. Et donc l'antifascisme, c'est l'opposition organisée au fascisme et plus largement à l'extrême droite, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Et c'est essayer de comprendre que comme on le disait, c'est une même dynamique en fait qui alimente les idées d'extrême droite. Et on peut pas compartimenter le racisme ou le capitalisme ou le sexisme. Pour nous, c'est la même logique qui pousse des gens à se penser supérieurs, à penser qu'il faut dominer les autres pour qu'une société fonctionne. Nous, on part du principe que chacun devrait avoir comme droit fondamental sa liberté de conscience, sa liberté d'exister, et surtout sa liberté d'exister en tant que ce qu'il est et pas ce qu'on veut faire de lui. Dans le sens-là, c'est-à-dire que si une personne veut exister en étant juif, musulman ou ce qu'on veut, une personne veut exister en étant homosexuel, transgenre ou autre, pour nous, c'est une base fondamentale que de respecter cette diversité et c'est aussi ce qui fait qu'on n'est pas seulement contre l'extrême droite, les féministes ou les antifascistes ou ceux qui sont contre le racisme ne sont pas seulement contre l'extrême droite. Ils sont aussi pour défendre un projet de société qui puisse faire en sorte que cette diversité existe et que les personnes puissent coexister au sein de la société.
Oui.
Et c'est vrai qu'on peut retrouver des bases communes entre l'antifascisme et le féminisme, parce que il y a des mouvements d'extrême droite ou des mouvements réactionnaires type Manif pour tous qui sont basés sur des idées sexistes, sur des idées patriarcales de sociétés basées sur la domination masculine, LGBTIQ-phobe, donc LGBTIQ c'est lesbienne, bi, gay, transgenre, intersexe, queer, dont on a déjà parlé dans des émissions précédentes, pour des mouvements comme par exemple ce qui s'est passé samedi, c'est-à-dire SOS Tout Petit, des catholiques intégristes qui font des prières de rue contre l'avortement, tous des mouvements en fait qui font que les féministes et les antifascistes se retrouvent à travailler ensemble pour lutter contre ce type de mouvement qui n'aurait pas lieu d'être.
Oui. Bah, juste pour c'est exactement le but du bloc antifasciste à Nancy, c'est d'ouvrir la lutte à ceux qui sont directement concernés. Et donc quand on travaille sur les questions justement de SOS Tout Petit, on va essayer de comprendre qui s'oppose à eux idéologiquement et aussi sur le terrain. Et donc dans ce cas-là, le bloc antifasciste fait le choix de travailler avec le collectif Debout ou d'autres collectifs qui défendent les personnes LGBT et qui défendent ces questions féministes.
Ouais. Parce qu'en fait, il y a quand même trois axes au bloc antifasciste. C'est déjà la recherche d'informations pour savoir qui est potentiellement un groupe d'extrême droite ou réactionnaire. Et on fait une réflexion sur comment les idées se propagent dans la société pour finalement arriver à trouver des actions qui sont en lien avec ces mouvements-là. Enfin, qui ont pour but de contrer ces actions-là.
Oui, et alors pour parler de cette menace, on a choisi une chanson donc, qui s'appelle « La menace avance ».
Glacial mille fois, plus froid que le Mistral s'est abattu sur le sud dans le nouveau triangle des Bermudes. Des phénomènes étranges ont été observés. La haine augmente vitesse grand V au bord de la Méditerranée. Activité paranormale, X-File envoie le FBI. Normal, ils sont les mieux placés pour ce travail. L'agent Mulder enquête, cherche et trouve une faille. S'introduit au cœur de la secte appelée Front National. Leur étendard arbore la flamme de l'enfer. La bannière tricolore pèse sur l'atmosphère. Mulder envoie son rapport, la situation est critique. Trois villes déjà collaborent avec les forces maléfiques. La menace avance, ne vois-tu pas que la menace avance? Ne sens-tu pas que la menace avance? Ne vois-tu pas que la menace avance, 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 avance? Glacial s'est abattu sur le sud de la France. La balance électorale a désigné l'intolérance. Je pense que les droits de l'homme se retournent dans leur tombe à l'idée que la fraternité n'est pas la même pour tout le monde. Il est temps maintenant de prendre conscience que tous les jours petit à petit la menace avance, profitant d'un
terrain progresse à son établissement. La menace avance au cœur du gouvernement. Et tous ces gens ignorants qui se sentent intelligents et qui ramènent leur grande gueule en disant, mais disant.
Écoutez, moi je ne suis pas raciste, mais...
Mais quoi, se met en dit, trop long sur ta pensée, man, tu es raciste en vérité, mais tu n'oses pas te l'avouer. N'ayons pas peur des mots, man, tu es facho. Le bruit et l'odeur de l'étranger te font froid dans le dos et la menace avance. Ne vois-tu pas que la menace avance? Ne sens-tu pas que la menace avance? Ne vois-tu pas que la menace avance, 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 avance? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, il nous envahit. Petit à petit, le vautour fait son nid. Petit à petit, il s'installe dans nos mairies, profitant d'un terrain propice à son établissement. La menace avance lentement mais sûrement. Il est temps maintenant de crier urgence avant que le phénomène ne prenne trop d'importance. Car leur putain de parti se répand comme une maladie contagieuse et obtient des pourcents dans des villes plus que douteuses. C'est un fait, ils sont là. Mais si on reste les bras croisés, jamais ça ne va changer, c'est évident. L'histoire nous l'a déjà montré auparavant, du temps où Vichy rimait avec nazi. Alors évitons le drame avant qu'il ne soit trop tard. Éteignons la flamme avant que l'incendie ne se déclare. La jeunesse emmerde le Front National. Il y aura toujours des pompiers tant qu'il y aura des pyromanes. La menace avance. Ne vois-tu pas que la menace avance? Ne sens-tu pas que la menace avance? Ne vois-tu pas que la menace avance, 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 avance?
Alors vous venez d'entendre Fouta donc avec la chanson La menace avance, donc pour parler de la menace de l'extrême droite. Alors vous êtes toujours sur RCN 90.7 avec le collectif féministe nancéen et mixte Debout et avec le bloc antifasciste de Nancy. Pour revenir sur la soirée qui a eu lieu le 15 novembre au Centre culturel autogéré de Nancy, donc il y a Tina qui est une militante de la Horde qui a bien voulu répondre à nos questions. Et donc on va écouter ses réponses tout au long de l'émission. Donc je vous propose de commencer par la première question.
Bonjour Tina, je vais te laisser te présenter et puis présenter du coup la Horde.
Bonsoir, alors je suis Tina Delahorse, je suis militante antifasciste depuis maintenant un certain nombre d'années. J'appartiens donc au collectif La Horde, qui est un collectif d'individus antifascistes. C'est vraiment notre terrain de lutte le plus important, même si ça nous arrive aussi de parler des violences sécuritaires, par exemple, et du racisme d'État. Alors, ce qu'on voulait faire, le projet de départ de la Horde, c'était d'essayer d'un peu de mutualiser tout ce qui se faisait au niveau de l'antifa radical sur la France et puis aussi avec des éclairages sur ce qui peut se passer à l'étranger. Donc on a essayé de mutualiser tout ça au niveau d'un site internet et puis de proposer aux gens qui le souhaitaient du matériel avec des idées qu'on avait entendues, soit de par l'histoire qu'on a eue en tant que militant, ou bien à la faveur de rencontres avec d'autres gens. Donc du matériel, alors ça peut être des autocollants avec des mots d'ordre un peu rigolos, comme celui qu'on a fait sur les chats antifa qui font courir les rats. Et puis d'autres choses, on a fait un schéma. On a essayé de présenter une espèce de cartographie de l'extrême droite en France. Et puis dernièrement, on a essayé de montrer un peu l'évolution du FN en reprenant depuis sa création jusqu'à nos jours. Donc on est un certain nombre, on n'est pas seulement à Paris, on est aussi dans d'autres endroits en France et on essaye de favoriser les rencontres entre les antifas et puis qu'il y ait un maximum de débats pour que le mouvement, on va dire, qui existe depuis quand même de nombreuses années, arrive un petit peu à faire en sorte que les gens se rencontrent, discutent et pour que ce mouvement-là émerge, quoi. Voilà.
Alors effectivement, un des gros points communs entre les luttes féministes et les luttes antifascistes, ce sont ces ennemis communs. et ils sont nombreux. Donc Tina nous parle de la cartographie justement des groupuscules d'extrême droite et aussi des partis d'extrême droite. Voilà, je pense par exemple à la Manif pour tous qui nous emmerde franchement avec, avec des idées rétrogrades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bah, concernant la Manif pour tous, c'est vrai qu'on peut se rejoindre au sein du bloc antifasciste, puisque je suis à la fois au Collectif Debout et au bloc antifasciste, parce que c'est un mouvement qui prône en fait des idées complètement rétrogrades, puisque en fait elles s'opposent au droit et elles discriminent une partie de la population, puisque elles s'opposent au droit des personnes LGBTIQ de pouvoir avoir accès au mariage. Et
bah, c'est surtout que je pense que c'est un événement, on va dire, cette manif pour tous, qui montre assez bien la porosité des milieux qu'il y a à l'extrême droite, et quand il y a une réaction qui se fait face à la question du respect des droits, en l'occurrence des personnes homosexuelles, il y a directement un mélange qui se fait avec les personnes plus réactionnaires. Donc on peut penser par exemple au GUD, donc le groupe Union Défense, qui est un syndicat d'extrême droite, ou encore à l'œuvre française, ou les mouvements comme Civitas, qui resurgissent et qui, en quelque sorte, font leur communication, font leur propagande et arrivent à se nourrir de ce mouvement-là. Donc ce qui est présenté un peu médiatiquement comme une réponse de gens globalement de droite au gouvernement, c'est quelque chose qui cache une autre réalité, qui est celle du terreau d'extrême droite, qui donc d'une part se nourrit de ces idées-là, de cette manifestation-là, mais qui aussi alimente le mouvement. C'est-à-dire que des personnes qui sont dans cette manifestation-là pour des questions de mariage, non-mariage, etc., on arrive à côtoyer des personnes qui sont à l'extrême droite, et à l'extrême droite la plus radicale, et qui donc flirtent avec les théories que nous considérons comme clairement injustes, inégalitaires et nauséabondes.
Effectivement, on a vu un mélange des genres avec des catholiques intégristes, avec des groupes néo-nazis, avec des partis aussi institutionnels d'extrême droite. Et ça fait peur, c'est aussi ce rassemblement des genres qui hélas, prend un terreau, parce que je sais par exemple que les agressions homophobes ont largement augmenté depuis les manifs pour tous. Enfin, ce qu'ils appellent manif pour tous, hein, c'est pas une manif pour tous. En fait, c'est une manière d'exclure une partie de la population, et c'est bien ça le programme de l'extrême droite.
Ouais, c'est très. Enfin, juste une petite phrase là-dessus. C'est vrai que c'est très important à rappeler. C'est que ce sont pas des idées en l'air qui sont défendues juste par des groupes d'un côté ou de l'autre. C'est pas juste une abstraction comme ça, juste un débat de politiciens. C'est des idées qui, une fois qu'elles sont intégrées par les personnes, peuvent mener à des actes. Donc quand il y a des personnes qui se sentent assez sûres d'eux, entourées d'une idée commune, elles peuvent passer à l'acte. Et c'est pour ça que c'est suite à ce type de manifestation qu'il y a eu une augmentation donc, des agressions. Et le lien, il n'est pas du tout hasardeux. Et comme la mort de Clément Méric à l'époque n'est pas du tout un hasard, c'est qu'il y a une montée de l'extrême droite qui assume pleinement ses convictions et qui se sent capable de les mettre en acte. Et donc c'est pour ça qu'on considère comme primordial de lutter contre l'extrême droite, puisqu'elle mène, donc l'augmentation de cette extrême droite mène à une mise en acte qui nuit à la liberté et à l'intégrité des personnes.
Ouais, et c'est aussi pour ça qu'on veut parler de féminisme et de défendre justement des idées d'égalité. Et je vous propose de passer à la rubrique « C'est quoi être féministe ?»
Comprendre le féminisme, c'est comprendre qu'il y a plusieurs formes de féminisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le féminisme, il change en fonction des époques et des pays. Que ce sont différents courants de pensée. Il y a par exemple le féminisme libéral qui s'est surtout centré sur le droit de vote, donc l'époque où les femmes se sont battues pour obtenir le droit de vote avant 1944. Il y a aussi le féminisme marxisme qui considère que les femmes sont une classe sociale comme une autre qui est opprimée par la société. Il y a aussi le féminisme radical qui prône que la racine de l'oppression des femmes est patriarcale. Il y a le féminisme lesbien, donc qui considère qu'en fait qu'il faudrait séparer les sexes dans la société tant qu'elle sera patriarcale, puisqu'elle elle opprime les femmes. Le féminisme de couleur qui est né aux États-Unis, qui s'est diffusé un peu partout dans le monde et qui revendique le fait que les femmes, enfin, qui revendique une opposition au féminisme des bourgeoises blanches, en estimant qu'il y a aussi une oppression par rapport à l'appartenance ethnique. Il y a le féminisme queer, donc celui-là, c'est une oppression par rapport au LGBTIQ. Le féminisme essentialiste, qui lui revendique des différences en fonction des sexes, tout en demandant quand même un traitement dans l'égalité. Et le féminisme égalitariste, qui revendique d'avoir les mêmes droits, les mêmes chances que les hommes. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le mouvement féminisme, c'est un mouvement qui devrait être avant tout humaniste, qui devrait se soucier de toutes les discriminations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui est gênant, c'est qu'il y a des femmes qui en viennent à se revendiquer comme anti-féministes, alors qu'elles ne comprennent pas forcément ce qu'est le féminisme. Le féminisme, il y a des sites avec des femmes qui ont mis différentes remarques sur leur anti-féminisme.
Oui, on avait vu une campagne de jeunes femmes qui avaient des pancartes et qui se prenaient en photo avec des slogans « Je suis anti-féministe parce que... » parce que, par exemple, je n'ai pas besoin du féminisme pour m'offrir une augmentation non méritée et gagner en travaillant moins qu'un homme. Je veux l'égalité et pas un privilège. PS, faire à manger pour mon petit copain quand il rentre fatigué du travail ne me dévalorisera pas. Mmh. Ou, par exemple, je n'ai pas besoin de féminisme parce que je n'ai pas besoin de me laisser pousser les poils pour prouver que je suis égale aux hommes. Donc, à travers ces exemples, on voit très bien que le féminisme, en fait, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est et c'est plus de l'ignorance et tout simplement. Et quand on peut. En fait, elles sont féministes sans le savoir parce qu'elles sont pour l'égalité et c'est comme si féminisme c'était une insulte en fait.
Oui, féminisme c'est une égalité de traitement et par exemple, à travail égal, salaire égal. Voilà, si vous êtes pour ça, c'est que vous êtes féministe. Hein. Pour continuer sur les liens entre féminisme et antifasciste, je vous propose d'écouter à nouveau La Horde.
Ok, merci. Et donc du coup, nous, notre émission, elle va aborder donc les liens entre féminisme et antifascisme. Est-ce que toi, tu as des éléments sur les liens, les convergences qu'on peut retrouver entre ces deux types de luttes, donc féministe et antifasciste?
Oui, alors pour nous, le féminisme, c'est quelque chose qui est super important. Je disais qu'on est un certain nombre d'individus, qu'on a des parcours qui sont pas forcément toujours les mêmes, mais on est quand même un certain nombre à avoir été présents dans les mobilisations qui étaient faites par des antifas et par des féministes dans les années 90 contre les anti-IVG. Et ça nous a toujours paru extrêmement important d'arriver à faire le lien entre les deux luttes, parce que on a à apprendre des deux côtés. On a besoin d'être antifa quand on intervient sur ce genre de mobilisation de fachos, et on peut pas faire abstraction des mots d'ordre féministe et de tout ce que le mouvement féministe a apporté aux antifas. Je prends toujours l'exemple des mobilisations anti-IVG sur lesquelles on veut intervenir. Pour nous, c'est absolument inacceptable de laisser ces gens-là venir soit prier devant des cliniques, soit faire des prières à des gens qui sont moins importants, enfin moins symptomatiques, quoi, disons. Et donc, on a toujours pensé qu'il y avait un lien qui était très, très, très important à faire, à établir, et c'est une convergence qui s'effectue, mais qui va pas sans heurts, parce que c'est quand même des milieux militants qui sont pas forcément les plus proches. Il y a des reproches qui sont faits aux antifas, et à juste titre, hein, je veux dire, sur le virilisme, des interventions qui peuvent être un peu musclées, ou voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur en particulier.
Alors effectivement, rien de ce qui constitue la lutte féministe ne se retrouve dans le tableau fasciste, que ce soit toutes les revendications d'émancipation des femmes au domicile, dans le travail, dans la sexualité, dans l'accès aux soins. Et voilà, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir lutter pour l'émancipation de tous les êtres humains, et notamment pour l'émancipation des femmes, des lesbiennes, des trans, etc. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, on passe à la suite. On vous propose un témoignage. C'est un témoignage d'un homme, justement, parce qu'il nous a surpris. On en reviendra après. Je vous laisse l'écouter. Attention.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Sidération. Ado, 16 ans. Je sors de Réunion, je vais à mon entraînement de boxe française. Je suis un jeune militant gauchiste. Il y a 3 ans, j'étais dans la rue, sur les barricades. La veille encore, combat de rue contre le meeting d'ordre nouveau. Comme beaucoup de ma génération, l'usage de la violence pour se défendre, pour combattre, ne nous est pas inconnu, elle est légitime. Toujours et immédiatement riposter est un peu notre credo. Métro bondé, je me case au fond, le dos contre la porte donnant sur la voie. Imperceptible au départ, inconcevable, incompréhensible. Il me faut quelques instants pour prendre conscience de ce qui m'arrive, de ce que l'on me fait, de ce qu'il me fait. Une main s'est insérée entre mes cuisses, me caresse l'entrejambe. Des doigts ouvrent ma braguette, s'insinuent, se glissent sous mon slip et me saisissent presque tranquillement mais avec fermeté, en toute impunité. Et je suis là comme figé, encore sous le coup de ce qui m'arrive, essayant de comprendre la situation, de comprendre l'incroyable, l'incompréhensible, l'inconcevable, l'inacceptable. Cette intrusion m'est insupportable, douloureuse, humiliante. Et moi, le militant actif, celui qui rend coup pour coup aux fachos, qui n'est jamais le dernier à se jeter dans la mêlée contre nos ennemis, moi, je suis comme vidé, sans force, sans voix, sans vie, incapable de réagir. L'individu n'est pas spécialement imposant, il me suffirait de le pousser d'un coup avec les mains, de le bousculer, simplement de le contourner pour m'engager vers la sortie. Et rien. Les stations défilent, la mienne passe, et je bronche pas. Je dis rien pour me dégager et descendre. Je suis comme désarmé, incapable de rassembler mes idées. Pire, je ne pense qu'à une seule chose, pourvu que personne ne s'en aperçoive et que tout ça finisse vite. Il finit par arrêter et descendre. Je reste le dos à la porte, laisse passer 2-3 stations avant d'en faire autant. Vidé, éreinté. Cassé. Rentrer, vite. Retrouver mes repères, me doucher. N'en parler jamais. Et la honte, le dégoût, pourquoi moi? Qu'ai-je en moi qui a permis cette chose? Pourquoi n'ai-je pas réagi, moi? Pourquoi et comment cette passivité? Comment ai-je pu renoncer à mon statut d'être libre, autonome, maître de son destin, de sa vie, de son corps? Je me reconnais plus, je suis en colère contre moi. Je me méprise même. Il y a 40 ans, et pourtant parfois je le ressens encore comme hier. Toutes ces sensations, cette violence, cet auto-dénigrement, je les ai maintes fois rencontrées dans mes activités militantes et professionnelles contre les violences faites aux femmes. Car ce que j'ai vécu, subi, est le quotidien de milliers de femmes, hier comme aujourd'hui. Alors, quand j'entends des réflexions indécentes et stupides, mais pourquoi elle n'a pas crié? Pourquoi elle ne s'est pas débattue? Ah, moi, je me laisserai pas faire. Et oui, des femmes aussi. Je bondis, mais tais-toi donc. Tu sais pas ce dont tu parles. Tu ne sais pas ce qu'est la sidération. Il faut l'avoir vécu dans sa chair. Et je ne te le souhaite pas.
Alors, la sidération...
Bertrand.
dont parle ce témoignage. C'est justement cet effet de paralysie interne quand on subit une agression. En fait, il y a une réaction du corps, une réaction de paralysie, de ne pas pouvoir réagir. Et souvent, on entend « Ah bah, si elle n'a pas réagi, c'est qu'elle l'a voulu, elle a voulu se faire violer. » Et voilà, souvent, on ne tient pas compte de cet effet-là. Alors, est-ce que le fait que ce soit un homme qui témoigne, ben, nous permet d'en parler, parce que c'est tellement habituel quand ça arrive aux femmes que finalement ça paraîtrait comme normal, et que là justement est-ce qu'il faut qu'un homme soit violé pour se rendre compte de ce que c'est que les violences des violences que subissent quotidiennement beaucoup trop de femmes partout dans le monde. Voilà, c'était le témoignage d'un homme d'une cinquantaine d'années qui racontait ce qui lui était arrivé quand il était ado. Oui.
Ouais, moi je pense pas que, heureusement qu'il n'y a pas besoin d'attendre que des hommes soient violés pour parler de ce type de problème. Mais c'est vrai que le fait que ce soit un homme fait qu'on a l'impression de découvrir quelque chose ou de redécouvrir un peu quelque chose. Et c'est en ça que c'est un peu, entre guillemets, novateur d'entendre ce genre de témoignage. Moi, ce que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressant aussi dans ce qu'il dit, c'est que on a beau être formé, entre guillemets, à la lutte, formé à la résistance. Il y a une grosse différence, et on fait une différence qui pourtant ne repose sur rien, entre ce qu'on fait dans sa vie entre guillemets civile ou sa vie publique et ce qui relève de la sphère du privé. Dans la sphère publique, il va être prêt à lutter et toujours répondre. Et dans la sphère privée, on voit que les mécanismes de domination ont un pouvoir énorme. Et je pense que c'est là qu'est intéressant la convergence des luttes, parce que quand les antifascistes commencent à réfléchir à ces questions de domination, on se rend compte que c'est pas seulement en répondant par la force, pas seulement en répondant par la violence comme voudraient le faire entendre les médias, que qu'on arrive à avoir un discours concret. C'est quand on a vraiment intériorisé ces questions-là et qu'on est capable de lutter au quotidien et de comprendre que cette domination-là, Elle est beaucoup plus fourbe, et elle est pas seulement dans la petite tête des fachos actuels, elle est pas seulement dans la manif pour tous, elle est dans le métro, elle est dans la rue, elle est dans les sifflements que font les passants vis-à-vis des femmes, et elle se retrouve au travail, et elle se retrouve sur les lieux de travail, et c'est pour ça que lutter contre ces dominations, on tente d'expliquer que c'est pas au cours d'une manifestation. La manifestation, c'est un point de rencontre, un moment fort des idées, mais c'est pas du tout la totalité de notre combat. Notre combat, il est au quotidien, et il n'y a pas besoin d'être faire partie du BAF pour défendre l'idéal antifasciste. À partir du moment où on se révolte et on résiste contre l'arbitraire, contre le sexisme ambiant, contre le racisme qu'on voit, que ce soit dans un bus, au travail ou ce qu'on veut, on défend un petit peu l'idéal que nous essayons de partager.
Oui, et le privé est politique, et le rapport à la violence doit être réfléchi aussi en fonction du genre, puisque la violence est un outil qui est utilisé pour dominer, un outil qui est utilisé par les hommes pour dominer les femmes aussi. Et donc la question du rapport à la violence, elle est aussi à creuser pour pouvoir inclure les femmes et toutes les formes de violence, de domination au sein de nos luttes. On continue avec la Horde, une autre question.
D'accord. Et du coup, quand là tu parlais des années 90, au niveau des actions qu'il y avait pu y avoir de communes entre Antifa et féministes, est-ce que encore là actuellement, par exemple dans le cadre de la Horde, vous avez des actions communes avec les féministes?
Alors le truc qui nous a paru vraiment important, indépendamment de ces, bon, alors pour nos apparitions à Paris en particulier, par rapport aux anti-VG, il se passe plus grand chose. Mais je me rappelle que je crois que c'était l'année dernière, c'est ça. On a voulu faire vraiment une manif qui serait pour montrer que l'antifascisme était vraiment l'affaire de tout le monde. Et on était parti sur toutes les luttes qui nous semblent importantes pour les antifas, enfin pour l'antifascisme en général et le mouvement d'émancipation anti-autoritaire. Pour nous, c'était super important d'avoir un travail commun avec des féministes et avec des lesbiennes et enfin en fait j'allais dire avec le mouvement gay, mais en fait là on n'a plus de contact, mais avec des lesbiennes en tout cas, je sais plus, on en avait discuté ensemble, des liens qu'on a avec les Lesbian of Colors, en tout cas sur Paris, on voulait montrer que dans la mémoire des luttes, dans toutes les luttes qui ont été les luttes féministes et les luttes des lesbiennes, eh ben, on avait quelque chose à faire ensemble. Et c'est par exemple ce 9 février de l'année dernière, on a réussi à monter une initiative comme ça, avec, je veux dire, un cortège qui était, bon, c'était pas un cortège non mixte parce que c'était pas l'objectif du truc, mais on avait un cortège des copines des LOX qui étaient là et qui disaient, nous on est des lesbiennes là, Lesbian of Colors, on est là parce qu'on est antifa. Et pour nous, l'antifascisme, c'est une priorité. Et puis de l'autre côté, il y avait des mots d'ordre antisexistes qui étaient, et féministes qui étaient super importants dans la manif. Donc ça, c'était une rencontre qui, à mon avis, a été une réussite. Après, pour le reste, je pense que des débats comme ceux qu'on a pu organiser l'autre jour à Nancy, c'est important parce qu'il faut qu'on arrive à faire se rencontrer les différents acteurs et actrices de ces mouvements. Parce que le truc qui est important, si je peux dire encore un petit mot,
ah oui.
C'est que l'extrême droite a vraiment la femme dans son viseur. Ça, c'est la femme, qu'elle soit hétéro ou homosexuelle, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de son idéologie et de son image du monde. Et ça, c'est une imagerie, une idéologie hyper réactionnaire. Et c'est évident pour nous, en tant que quand on a des mots d'ordre d'émancipation, on ne peut juste pas l'accepter.
Voilà. Alors oui, pourquoi les féministes font tellement peur aux fachos ? Bien, c'est justement parce qu'elles s'opposent au rôle traditionnel du patriarcat.
Oui, et justement, pour ça, je vais vous parler de la place des femmes, et notamment, soi-disant, qu'est-ce qui est tourné vers les femmes au Front National, par exemple le parti institutionnel qu'on connaît bien. Donc il y a là une politique nataliste, donc la femme qui est vue comme une entre guillemets poule pondeuse qui serait là juste pour faire des enfants. Donc un rôle très traditionnel et tourné vers le passé. L'idée d'un revenu parental pour les femmes au foyer, ce qui sous-entend qu'en fait si on a un revenu, un salaire pour avoir des enfants, on peut penser que les femmes vont plus retourner au foyer. L'idée de la parité est pour, je cite Marine Le Pen, un racisme inversé qui aurait donc justement, qui prônerait une idéologie et différentialiste qui s'opposerait donc à la complémentarité dont on a parlé entre les hommes et les femmes et qui du coup ne profiterait pas aux hommes blancs hétérosexuels. Et donc le cheval de bataille quand même du FN, c'est le déremboursement de l'IVG dit de confort, c'est-à-dire que pour le FN, les femmes ont recours à l'interruption volontaire de grossesse de manière abusive et seraient même obligées, entre guillemets, d'avorter, qu'il y aurait une espèce de lobby de l'avortement. Et on a pu voir ça justement dans les années 80 où... c'était leur fonds de commerce où ils allaient avec les commandos, ce qu'ils appelaient les commandos à l'époque, qui allaient dans les hôpitaux pour empêcher les avortements. En 86, il y a eu une proposition de loi qu'ils ont rédigée contre l'IVG. Et ensuite, en 2002-2007, ils sont passés à une phase qui va un petit peu avec la dédiabolisation progressive du FN, à revenir sur la loi Veil par une voie référendaire.
Oui, ne nous trompons pas, hein, la famille, le schéma hétérosexuel et patriarcal de la famille sert d'argument pour établir des inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est bien ça que fait l'extrême droite. Je pense aussi aux revendications pseudo-féministes qui sont mises en avant avec tout ce qu'on peut entendre sur le voile.
Oui, parce que le problème, c'est que la polémique sur le voile a commencé un peu dans les années fin des années 80, en 1989, après l'exclusion de 3 jeunes filles du collège. Donc on sait qu'à l'époque, il y avait à peu près 200 000 jeunes filles qui portaient le foulard islamique, ce qui n'était pas une proportion énorme. Jospin, à l'époque, avait dit à l'Assemblée que c'était pas une solution d'exclure ces jeunes filles. Il s'était fait huer par la droite comme par la gauche, donc on peut se rendre compte que ce débat était dans les deux côté opposer les gens. Ça s'est un peu tu jusqu'en automne 94 où Il y a de nouveau eu des réflexions sur le sujet et notamment une idée de loi qui n'a pas vu le jour avant en 2002. Donc en 2002, là, le projet de loi a été voté. Et on se rend compte en fait que ces trois moments phares, donc 89, 94 et 2002, c'est en corrélation justement avec des scores plus élevés du Front National aux élections. Et donc, on pourrait en déduire qu'en fait, cette polémique autour du voile n'est pas en fait une polémique autour d'un féminisme pour défendre le droit des femmes à être émancipées, à pouvoir vivre leur vie comme elles le souhaitent, mais plutôt un racisme, comme dirait, il y a un documentaire d'ailleurs qui est très intéressant, un racisme à peine voilé. C'est-à-dire qu'on prend comme prétexte le fait qu'on est dérangé par un voile qui serait soi-disant patriarcal, qui ramènerait la femme à une domination de leur père ou de leur mari, et qui en fait ce serait ni plus ni moins qu'un racisme clairement établi, qui exclurait ces jeunes femmes. Et donc nous, en tant que féministes, et antifascistes, on considère que ces femmes-là, il ne faut pas les exclure, qu'on soit pour ou contre le voile pour des raisons X ou Y. On prône la solidarité internationale, donc c'est important d'écouter ces femmes, de comprendre pourquoi elles portent le voile, car il y a une diversité vraiment très importante autour de ce port du voile. Chaque femme porte le voile pour des raisons très différentes, et pas forcément, ça peut être un choix de rébellion justement face à cette société qui veut empêcher les femmes de porter le voile. Donc face à ça, il faut être solidaire vis-à-vis de ces femmes-là.
Et puis c'est un moyen aussi de détourner l'attention du machisme présent dans la culture française, du machisme du modèle familial patriarcal, et de refuser de se remettre en cause là-dessus. C'est en tout cas opposé à l'idée d'égalité qu'on souhaite défendre. Donc en tant que féministe, je repense au slogan qu'on a l'habitude de dire « Cato, facho, macho, vous nous cassez le clito !» Je vous propose une musique, le collectif Marie Reed, dans l'ombre de l'histoire.
Si nous avions une cuisine, Sophia, nous y serions passés après souper pour vaquer aux tâches ménagères et papoter sur les thèmes domestiques les plus insignifiants. Pendant que les hommes seraient sortis fumer et discuter sur les thèmes les plus importants qui soient. Mais à l'occasion décider de nos filles.
Elle regarde la rumeur de la mer, visage marqué par la douleur, lueur dans l'écume et le ressac, ce corps trop courbé par la vie, il est temps de vider son sac, seule la mort la délivra de ses putains de vie, elle sait trop, tue ses silences, la tue, dès l'enfance savoir que t'es pas la bienvenue, pas de garçon dans la famille, pour son père était malvenu. Quand la sécheresse a tout détruit, c'est pas l'eau, mais les coups qui ont plu. Sa sœur s'est enfuie, elle l'a plus jamais revue. Le père picolait de plus en plus, et quand ses règles sont apparues, c'est le voisin qui l'a souillée. De putain, elle fut traitée, il paraît que c'est pour l'honneur que dans la rue. Son père l'a jetée, elle a erré pendant des mois sans rien manger et prendre du poids. Elle comprit vite qu'elle attendait un petit d'homme, issu de la violence des hommes. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Sa route l'a menée à Barcelone, pas de doute c'est en été que nous sommes, dans chaque rue, dans chaque allée, bistrot ou assemblée, c'est la révolution qui bourdonne, des rêves de liberté, bourgeonne, c'est dans la peur et la fuite que les bourges donnent, ici quand les fous dorment, leurs songes sont anarchiques et les armées faites de rêveurs, bien loin d'elle le temps des pleurs, elle a trouvé avec sa fille, refuge chez des amis de Durruti, fini le temps des jugements, des curetons, leurs voix inquisiteurs et autres crétins, et pourtant, le clan est plus se déchire par les armes et le sang. Elle s'enrôle comme infirmière et part au front. Les rêveurs perdront la guerre et se replieront. La plupart de ses amis, morts ou disparus, elle quitte l'Espagne, pays perdu. Elle et sa fille, emplies de rage, doivent encore fuir la violence des hommes une fois de plus. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Aux femmes oubliées, dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu, même dans le désespoir, à celles qui sont battues.
Si un jour je change, je m'en irai loin d'ici. Loin. Très loin.
Et tu as...
On va tous merdier. Me marier, faire la bouffe. Je dis pas ça pour toi, mais c'est pas mon idéal de vie, ça.
Qui tu le prends, toi?
Rassure-toi, pas pour ta fille. Ça veut dire que moi, je vais me battre. Je veux pas vivre dans une bulle toute ma vie, moi. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de vivre.
Les années passent, mais la rage reste intacte, voilà l'impact. Des années de lutte, de combat et de porte claquée. Après insultes et coups de matraque, des gardes à vue, visage plaqué sur le bitume. Trop de vies ont passé entre le marteau et l'enclume. Elles ont tant lutté contre l'odeur rance avec leurs plumes. Elles ont tant crié contre cette vieille France, sourde et mal baisée finalement. Obtenu le droit d'aimer sans procréer. En 67, 3 ans après, le MLF est enfané. Plus jamais les yeux baissés, plus jamais honte d'avoir recours à l'IVG. 1975, notre corps nous appartient. Enfin, nos filles auront d'autres choix que celui de choisir entre mère et putain. Pouvoir dire non, vouloir plein d'autres choses. Changer d'avis et aimer à l'envi. Être plus et plus encore qu'un simple corps qui donne la vie. Aux femmes oubliées dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir. Aux femmes oubliées dans l'ombre de l'histoire, à celles qui ont lutté pour construire notre histoire, à celles qui ont tenu même dans le désespoir, à celles qui sont battues pour que renaisse l'espoir.
Vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif féministe debout et le bloc antifasciste. Et on continue de poser des questions à la Horde.
Clairement, et justement, ça me fait venir à notre dernière question. C'est, vous aviez présenté donc avec la Horde à Nancy un peu les mouvements d'extrême droite qu'il y avait, etc. Et puis quand on creuse un peu, on voit quand même il y a des femmes qui ont des places parfois importantes au sein de certains mouvements d'extrême droite. On se disait, mais est-ce que c'est pas aller contre leurs propres intérêts? Est-ce que dans vos analyses que vous avez, est-ce que vous voyez un petit peu comment les femmes, des femmes vont prendre place dans ces mouvements qui sont clairement avec une vision conservatrice de des femmes, comment elles résolvent ce paradoxe d'être actives dans des mouvements comme ceux-là qui vont contre leurs intérêts, quoi.
Je pense qu'elles ont une vision du monde, hein, que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, une vision du monde qui est complètement basée sur ce qu'elles appellent, ce qu'ils appellent tous la complémentarité. C'est vraiment, c'est un peu, moi j'ai tendance à dire, c'est un peu comme le racisme différentialiste chez les fachos. C'est chacun à sa place. Donc, je veux dire, la femme, très bien, si elle est militante, mais à condition qu'elle soit là pour préparer un repas chaud pour le guerrier qui allait coller 3 affiches dans le quartier ou des choses comme ça. Et du coup, elle, ça les dérange pas. Vraiment, c'est comme ça que j'expliquerai le paradoxe dans l'extrême droite radicale. Hein. Après, au niveau du FN, c'est un petit peu différent. Mais quand on le voit, on avait évoqué à Nancy pendant la discussion les Antigones et puis les Cariatides, hein, donc ces groupes qui sont vraiment des groupes de femmes. Et c'est sur l'idée de la complémentarité, sur une autre féminité, sur un contre-féminisme qu'elles se construisent, et de façon hyper revendicative. Et de ce point de vue-là, si tu veux, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que l'émancipation, elle rentre même pas en ligne de compte dans leur image du monde et dans leur réflexion. Donc de ce point de vue-là, ça s'explique et ça se comprend. C'est une espèce de revendication contre, un peu un truc contre, pas révolutionnaire, parce qu'on, même si on peut se dire quand il y a eu une révolution qui s'est faite dans les années 70, mais c'est vraiment aller contre les idées de mai 68, contre toute l'idée de libération de la femme. On va être fiers. C'est ça qui est
oui, c'est impressionnant. Est-ce que tu peux en dire plus justement sur ces deux groupes de femmes? Parce que c'était vraiment très étonnant d'apprendre que ce type de groupe existait.
Alors oui, ce que je pense qui est important, c'est que ces deux groupes qui sont très différents, parce que il y a un groupe qui s'est fait vraiment sur un buzz. Hein. C'était ces jeunes femmes qui apparaissent habillées tout de blanc, vêtues. Qui sont l'incarnation qui veulent être l'incarnation de la pureté, en réaction, elles se sont construites en réaction aux fémines. Puisqu'il y avait une de leurs leaders, je parle des Antigones, je vais dire le nom, il y avait une de leurs chefs là qui avait un, qui s'était targué d'avoir infiltré, bon, elle l'a fait, hein, les fémènes pour voir un petit peu comment fonctionnait ce groupe et puis pour dire voilà, nous on est complètement différentes, on est vraiment l'image de la jeune fille et de la jeune femme bien comme il faut et on le revendique et on veut rester à notre place, on veut trouver un mari, etc., etc. Et après, l'idée qu'elles avaient un peu sur le modèle des identitaires, hein, pour prendre leur pote au masculin, l'idée c'était de faire des interventions qui soient médiatisées, donc elles ont fait un espèce de manifeste qu'elles ont filmé, qui était d'ailleurs lamentable, avec des mots d'ordre qui étaient ceux de la complémentarité dont je te parlais. Ouais. Mais bon, voilà, l'idée, c'était de faire le buzz. Et puis, ça s'est quand même vachement endormi, leur mouvement, même si elles se revendiquent. Elles revendiquent un certain nombre d'adhérentes, machin. Mais elles étaient aussi vachement sur un truc apolitique. Du genre, mais non, nous, on n'est pas du tout à l'extrême droite, on n'est pas du tout de droite, etc. Ça, c'était dans le sillage de la manif pour tous.
Ouais.
Les cariatides, par contre, c'est autre chose, parce qu'elles sont vraiment... affiliés à l'œuvre française et c'est vraiment des radicales de chez radicales et d'ailleurs c'est pas un hasard, on les retrouve dans le soutien à Esteban Morillo, l'assassin de Clément Méric.
Ah ouais.
Donc moi je dirais que, puis elles sont quand même assez actives en ce moment sur Lyon, je dirais qu'il y a quand même là quelque chose dont il faut se méfier. Bon, bien sûr elles interviennent, elles font des collages ou des choses comme ça, avec toujours en backup leur mec, on va dire. Mm-hmm. Mais bon, enfin, moi je dis, faut quand même se méfier de ces nanas-là, d'autant qu'il y en a certaines qu'on suit depuis un moment. Il va falloir voir un petit peu où elles vont, quoi.
Oui, de pouvoir réagir. Ok.
Effectivement, la place des femmes dans les mouvements d'extrême droite, elle est assez paradoxale, puisqu'elles défendent un système politique qui va les exclure. Et bah, ça reste un système patriarcal, et puis souvent, bah, y a des mecs derrière, et je pense notamment à Marine Le Pen, voilà, qui reprend les idées de son papa, le mouvement de son papa, avec les sous de son papa. Et
de son mari aussi.
Et de son mari aussi. C'est pour défendre le même modèle patriarcal. Ne vous trompez pas avec une image soi-disant lissée. Les idées qui sont derrière sont nauséabondes. Je vous propose de passer à la rubrique actualité.
Vous parlez de la Turquie parce qu'il y a une vraie régression dans ce pays au niveau du droit des femmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le président Recep Tayyip Erdogan a dit que l'égalité homme-femme était contraire à la nature humaine. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe là-bas en ce moment. Donc il y a une dizaine d'années, les travaux des sociologues montrent que le droit était plutôt en évolution. Et on pense que c'était plutôt pour s'intégrer dans l'Europe. Alors qu'aujourd'hui, on parle de retour à la morale religieuse. On en vient même à licencier des femmes pour une question d'inconvenance au niveau de la tenue. Donc une journaliste présentatrice TV a été licenciée parce qu'elle avait un décolleté. Donc le but, c'est vraiment de commencer par la critique de l'habillement pour en venir à des thèmes plus profonds comme l'avortement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a autorisé l'avortement là-bas en 83 jusqu'à 10 semaines. Maintenant, on parle de le réduire à 4 semaines. Vous voyez déjà vraiment un grand changement au niveau de l'avortement. Donc on fait en sorte aussi de considérer, enfin faire toute la promotion pour dire que c'est un crime, que c'est clairement un assassinat. Donc il y a eu le maire d'Ankara qui a dit en 2010 que 100 000 avortements dans l'année, c'était 100 000 assassinats et que c'était plutôt à la mère à suicider. Donc c'était elle qui devait mourir, pas les enfants. Donc ce qu'ils font maintenant pour empêcher les femmes d'avorter, puisqu'ils ne l'ont pas encore rendu illégal, c'est qu'ils ferment quasiment tous les plannings familiaux. Ils font en sorte que l'accès aux services soit compliqué. Et la pilule du lendemain est sur ordonnance, ce qui complique la chose pour celles qui vivent dans les campagnes, puisqu'il faut déjà avoir accès à un médecin pour ensuite avoir son ordonnance et ensuite récupérer sa pilule. Donc du coup, ça commence à poser sérieusement problème au niveau de l'avortement. En plus, on se rend compte qu'il y a une hausse de la violence conjugale. Donc 200 femmes ont été tuées en 2014, et un sixième d'entre elles, c'était parce qu'elles avaient demandé le divorce. Donc ce qu'on a pu constater, c'est qu'en 7 ans, il y a 4063 femmes qui ont été tuées par rapport à ce qu'on appelle le crime d'honneur. Donc le crime d'honneur, c'est quand on considère que que l'honneur familial repose sur la femme, et notamment sur sa virginité, sa pureté, etc. Enfin, dès qu'une femme fait quelque chose qui est considéré comme anormal vis-à-vis de sa famille, elle est punie, voire tuée. Donc, ce qu'on constate en plus, c'est qu'il n'y a guère que 28% de femmes actives à l'heure actuelle en Turquie. Donc, ça vous donne un peu une idée de la régression.
La lutte pour l'émancipation continue partout dans le monde, pour le droit à une sexualité libre, à une vie libre, pour défendre tous les droits fondamentaux de tous les êtres humains. Il est temps de conclure donc, sur le féminisme et l'antifascisme. On va commencer par écouter la Horde.
Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur cette thématique assez large finalement de notre émission ?
Ouais, écoute, pas grand-chose, si ce n'est que effectivement, ce que je trouve ahurissant, c'est que si on regarde bien ce qui s'est passé au niveau de la manif pour tous et dans tous les courants, on retrouve énormément de femmes. Et comme tu disais tout à l'heure, certes, on peut expliquer dans leur image du monde avec l'idée de complémentarité qu'elles doivent rester à leur place, elles sont les mères des militantes demain, etc. Mais c'est quand même dingue de voir défiler. Dans une offensive réactionnaire comme ça, quasiment que des femmes. Mmh. Et là, on se dit, merde, qu'est-ce qu'on a perdu depuis toutes ces années, depuis l'époque où les copines, dans les années 70, ont réussi à obtenir plein de choses, quoi. Donc, il faut rien lâcher sur le féminisme. Je pense que ça, c'est hyper important et redevenir offensif, quoi, au maximum.
Autant qu'on peut. Je te remercie, Tina, pour cette interview.
Alors, pour conclure, on va essayer de synthétiser en disant que le féminisme comme l'antifascisme, ce ne sont pas des combats qui sont relayés aux poubelles de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement désuet, comme on voudrait parfois nous le faire croire, que ce soit à travers les médias ou le message ambiant. C'est que c'est des thématiques qui sont complètement actuelles. Et aujourd'hui, les luttes qu'on voit témoignent justement de cette actualité. Donc le week-end dernier, donc pour ce qui est du national, il y a eu une manifestation par exemple à Lyon. Et on voit que le gouvernement défend la position, enfin, ou l'existence du Front National, puisque le dispositif policier qui recouvrait 2000 policiers, des hélicoptères et tout ça, était là pour défendre la bonne tenue du congrès du Front National à Lyon. Et dans le même temps, des policiers défendaient donc la prière de rue le même week-end à Nancy, alors que ces personnes pris donc contre l'avortement et ainsi de suite. Donc on voit que ces questions-là sont vraiment d'actualité et que le pouvoir, le gouvernement, là-dedans n'est pas complètement innocent et qu'il faut avoir conscience de ces rapports de force et qu'il est possible d'agir, possible de véhiculer d'autres idées, possible de véhiculer un autre modèle de société et c'est ce qu'on essaye de faire à travers le BAF. Donc il faut bien comprendre que il n'y a pas seulement le Front National contre lequel on lutte, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, un combat qui se passe au quotidien, donc que ce soit quand on se fait insulter, quand on se fait siffler, quand il y en a d'autres personnes qui subissent des discriminations, c'est là qu'on doit réagir. Et pas seulement en faisant partie d'un groupe X ou Y. Pour ce qui concerne le bloc antifasciste, je vais juste dire un mot pour dire qu'on a organisé un concours de dessin où n'importe qui peut dessiner et puis partager donc sa réalisation, que ce soit du dessin, papier, numérique ou ce qu'on veut, et l'envoyer donc soit à l'adresse du CSAN, donc le centre culturel autogéré au 69 rue Mont-Désert, soit l'envoyer par le biais d'internet, donc sur le site BAF Nancy, sur lequel les informations et l'actualité concernant l'antifascisme local et national sont reléguées.
Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que il y a une réunion mensuelle la semaine prochaine, mercredi 10 décembre à 19h du bloc antifasciste, et donc tout le monde est bienvenu pour arriver à venir et réfléchir à la question de l'antifascisme et de la lutte contre les discriminations.
Et pour celles qui pensent que le droit des femmes c'est acquis, dites-vous bien que si l'extrême droite passe au pouvoir, le droit à l'avortement, tout ce qui touche au droit quotidien des femmes peut être remis en question, il suffit de voir le cas de l'Espagne. Il a fallu quand même une mobilisation un peu internationale pour repousser le parti extrémiste espagnol par rapport à la loi sur l'avortement.
Alors, vous retrouverez tous les liens sur notre site internet www.collectif-debout.org. Et en ce mois de décembre, pour Noël, n'offrez pas des balais aux petites filles et des armes aux petits garçons. L'égalité, ça passe par là aussi. À très bientôt.
Merci.
Debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes.